En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 19 février 2007, le professeur Georges David, membre de l'Académie de médecine, a donné lecture de sa communication consacrée à la prévention et au principe de précaution. Appliqué d'abord à l'environnement, le principe de précaution pose diverses questions quand il est appliqué au domaine médical, tant pour la médecine de soins que pour la santé publique et la recherche médicale. Le professeur Georges David explique la différence entre prévention et principe de précaution. Il donne plusieurs exemples de risques de dérive, proposant une troisième voie, la veille sanitaire.
Messieurs les chanceliers, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous remercier pour votre invitation à présenter devant votre Académie une communication sur le thème du principe de précaution dans le domaine médical. C'est en effet, comme vous venez de dire, un sujet qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie au niveau de l'Académie de médecine, réflexion à laquelle vous nous avez fait l'honneur de participer et qui a été à l'origine du rapport en l'an 2000 que vous venez d'évoquer. Le principe de précaution est un concept relativement récent, il a à peine une vingtaine d'années, et on pourrait d'emblée en dire qu'il est le produit d'une société moderne hantée par le risque. Et ceci, tout particulièrement en France. Mais cette frilosité de notre pays est-elle si récente? On pourrait en douter à la lecture d'un grand témoin du XVIIIe siècle, Voltaire. Voltaire, revenant d'un long séjour quelque peu forcé en Angleterre, consacre une de ses lettres philosophiques, la 11e, à une grande question médicale de l'époque, l'inoculation de la petite vérole, c'est-à-dire la forme primitive de la vaccination contre la variole. Écoutons-le. On dit, dans l'Europe chrétienne, que les Anglais sont des fous et des enragés. Des fous, parce qu'ils donnent à leurs enfants la petite vérole pour l'empêcher de l'avoir. Des enragés, parce qu'ils communiquent de gaieté de cœur une maladie certaine et affreuse dans le but de prévenir un mal incertain. Mais les Anglais, de leur côté, disent « les autres Européens sont des lâches et des dénaturés, lâches en ce qu'ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants et dénaturés en ce qu'ils les exposent alors à mourir un jour de la petite vérole. » Eh bien, en quelques brillantes lignes, le problème de la précaution, si ce n'est dans sa lettre, était posé. Et nous verrons tout à l'heure que ce thème de la vaccination, avec l'opposition de deux attitudes, l'une acceptant le risque pour un bénéfice ultérieur, l'autre rejetant par précaution, reste d'une très grande actualité, à la réserve près que la précaution se pare maintenant, depuis quelques années, d'un ennoblissement, puisqu'elle est devenue principe de précaution et qu'elle a l'honneur d'être entrée dans notre législation à deux endroits. Pour la première fois, c'était en 1995, c'est à l'occasion de la loi Barnier, qui a conduit un article du Code rural qui énonce le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement et à un coût économiquement acceptable. Plus récemment, le principe a été introduit dans la hiérarchie de la loi à un plus haut degré encore, puisqu'il a été introduit dans la loi constitutionnelle relative à la Charte de l'environnement, très exactement dans son article 5, et que la rédaction de cet article, est inutile de le détailler, reprend en gros les idées de l'article introduit par la loi Barnier, insistant donc sur la nécessité d'un dommage important et avec quelques réserves quant à la nécessité de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. On constate donc que ces deux mentions semblent limiter le champ d'application du principe de précaution à l'environnement. Mais il faut bien reconnaître que l'extension au domaine de la santé était pratiquement inévitable du fait que les dommages à l'environnement comportent évidemment ceux, et au premier chef, ceux touchant à la santé humaine. On pouvait toutefois espérer que les risques médicaux directs, c'est-à-dire ceux résultant de la mise en œuvre de la médecine curative, de la médecine individuelle, en seraient exclus. C'était vraiment sous-estimer la puissance séductrice de ce principe. Et son éminent attrait tient en effet à ce qu'il renouvelle totalement la gestion du risque, puisqu'il n'est plus nécessaire, lorsqu'on l'invoque, d'avoir des certitudes sur l'existence et la nature de la menace, ce qui est le propre de la prévention. Non, il suffit avec le principe de précaution de soupçonner une menace. Le principe de précaution se présente donc comme en quelque sorte une super prévention permettant d'agir plus vite, plus fort. Comme l'exprime d'ailleurs si ouvertement l'un de ses prosélytes de la première heure, le professeur de droit Gilles Martin, que je cite, « Très schématiquement, la prévention consiste à prendre les mesures nécessaires à la non-survenance d'un événement prévisible ou en tout cas probabilisable. La précaution consiste à aller plus loin, soit en multipliant au-delà de ce que la probabilité rend nécessaire les mesures de protection, soit en adoptant des mesures de protection à l'encontre de risques qui ne sont même pas probabilisables. Il était donc inévitable qu'une arme apparemment aussi puissante étende ses bienfaits à toute la médecine, à commencer par la médecine de soi, la médecine individuelle que nous allons examiner en tout premier. Mais rappelons que de toujours, le risque s'est trouvé au cœur de la médecine de soins. On peut dire que la médecine est risque, doublement. Tout d'abord parce qu'elle est indissolublement liée à la maladie, qui elle-même est constitutive du risque, mais d'autre part parce que son intervention comporte elle-même des risques. Et l'erreur serait certainement de penser que ces progrès peuvent atténuer cette double servitude. En effet, les avancées techniques, pour remarquables et aussi indubitables qu'elles soient, comportent en elles-mêmes une augmentation des risques. La médecine est donc et restera toujours liée au risque. Et cette constatation soulève une question trop rarement posée, cependant essentielle, mais qu'est-ce que le risque? On obtient de réponse celle assez banale du dictionnaire, celle d'un danger éventuel, plus ou moins prévisible. Mais il y a par ailleurs celle que donne le spécialiste du risque médical, l'épidémiologiste, qui est plus précis, et qui le définit, si l'on prend la définition de Daniel Schwartz, qui est reprise, qui est acceptée unanimement, le risque d'un événement et la probabilité qu'il se produise. Remarquons que pour l'épidémiologiste, le terme de risque est indépendant de la caractéristique de l'événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Pour lui, le terme sera donc aussi bien utilisé pour quantifier des chances de guérison que des risques de complications. Le fait important est que le risque, pour être utilisable, doit donc s'exprimer en termes de pourcentage Et c'est bien cette notion fondamentale qui a marqué la médecine moderne, la nécessité de probabiliser les risques de la maladie et ceux bénéfiques ou adverses de la thérapeutique. La décision du médecin repose sur un calcul faisant intervenir trois ordres de probabilité. Celle des risques de la maladie, celle des effets bénéfiques dus au traitement, escomptés donc de la thérapeutique, mais aussi celle des effets indésirables possibles de cette thérapeutique. Et les probabilités sont fournies pour chacun des trois facteurs par des référentiels qui résultent, pour tout ce qui concerne la maladie, des données épidémiologiques acquises au fil des travaux antérieurs, et pour la thérapeutique, des données des essais expérimentaux cliniques. Et on ne peut, dans un tel calcul, qu'introduire évidemment les événements les plus probables. Pour la maladie, ceux connus dans l'évolution habituelle, éventuellement corrigés par les facteurs de risque particuliers que présente le cas considéré. Mais il n'y a pas d'autre solution pour établir le rapport bénéfice-risque que de faire ce raisonnement probabiliste. Et dans ce raisonnement probabiliste, pas d'autre possibilité que de prendre en compte les événements les plus courants. Prendre en compte l'événement exceptionnel et, à plus forte raison, le risque non avéré, tel que le propose le principe de précaution, est donc incompatible avec cette démarche probabiliste. Ce serait d'ailleurs transgresser la recommandation majeure du code de déontologie, demandant, exigeant même du médecin qu'il assure au patient des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science. Cette objection majeure de transgression du code de déontologie, lorsqu'elle est entendue des adeptes du principe de précaution, les conduit alors à ramener le principe à une norme générale de comportement fondée sur le devoir de prudence et de diligence. Mais cette notion de prudence fait déjà l'objet dans le code de déontologie de nombre de références, au moins dans 5 articles du code de déontologie, qui rendent bien inutile cette redite. On a d'ailleurs quelques raisons de s'inquiéter d'une autre interprétation du principe de précaution. Celle avancée par un magistrat expert en la matière, le conseiller à la Cour de cassation, Sargos, qui énonce « Ce principe de précaution nous paraît imposer un devoir que l'on serait tenté d'appeler de prévision de l'imprévisible ou plus exactement du peu prévisible. » Le médecin a le droit de s'interroger sur la malléabilité de ce principe à qui l'on prête tant de vertus, mais aussi tant de possibilités d'interprétation. Mais venons à un domaine où il est certainement moins discutable. C'est le domaine de la santé publique. Il est beaucoup plus difficile aux médecins de récuser dans ce domaine l'application du principe de précaution. Puisque la décision ne relève pas de lui, mais de l'autorité de l'État, et le médecin n'intervient qu'au titre d'expert dans l'évaluation du risque et des propositions en éventail des mesures à prendre. Il appartient au pouvoir politique de prendre finalement la décision. Mais on peut tout de même dire que les conséquences des décisions prises par le niveau politique sur la santé publique concernent le médecin en premier chef. Et il lui est donc permis et même recommandé de porter un jugement sur la justification des décisions prises, surtout lorsqu'elles s'appuient sur le principe de précaution pour s'écarter de la gestion classique fondée sur la prévention. Mais rappelons encore une fois, car ça n'a été fait précédemment que par une courte évocation, rappelons la différence entre prévention et précaution, tant cette différence est fondamentale. La prévention répond à une menace identifiable dans ses trois paramètres. Nature, gravité, probabilité de survenue. La décision d'intervention relève d'une double évaluation sous l'angle sanitaire, celle du rapport bénéfice-risque, et sous l'angle économique, celle du rapport coût-efficacité. Cette double évaluation traduit la reconnaissance en matière de prévention d'une double limite, d'une part dans le degré de protection visé qui demande à être proportionné à la gravité du risque, mais d'autre part dans le coût de la mesure qui doit être proportionné aux bénéfices sanitaires attendus. Le principe de précaution, tout à l'inverse, répond à un risque incertain, soit parce qu'il est impossible de déterminer la nature de la menace, soit parce qu'il est impossible d'en établir la probabilité ou la gravité. Or, la formulation du principe de précaution dans la loi énonce que les mesures de protection qui découlent de son application doivent répondre à une double obligation de proportionnalité et de coût acceptable. Comment satisfaire ces exigences lorsque le risque est hypothétique? Première objection, mais il en est une autre, c'est que cette obligation de proportionnalité, si elle est bien prescrite dans le domaine de l'environnement, et à deux reprises, est le plus souvent oubliée dès que l'on entre dans le domaine de la santé. Et rappelons-nous la précédente citation du professeur Gilles Martin. De cette comparaison entre prévention et précaution, il apparaît donc que la première se fixe des limites dans la protection, en particulier en fonction du coût des mesures. Il est au contraire dans l'objectif du principe de précaution de rechercher le plus haut degré possible de protection. Il se défend certes de poursuivre l'objectif du risque nul, reconnu comme irréaliste, mais la promesse d'une protection maximale contre toute menace, fût-elle hypothétique, n'est pas loin de le créditer aux yeux de l'opinion publique d'un tel pouvoir. Et c'est bien ce qui fait son attraction, tant sociale que médiatique. Mais c'est aussi ce qui l'expose à des excès. À commencer par la tentation pour le politique de l'utiliser en place de la prévention pour aller sur la demande, sous la pression sociale, pour aller au-delà des limites que se fixe la prévention. Eh bien, on peut en donner deux exemples concrets d'une telle dérive sécuritaire. L'une, la première, sera dans le domaine de la transfusion et l'autre dans le domaine de la vaccination. Le premier exemple s'est produit dans le domaine transfusionnel, mais plus précisément dans le domaine de la sécurité virale. En 1998, dans le but de renforcer encore la sécurité transfusionnelle en matière de risque viral, obsession résultant évidemment du drame du sang contaminé des années 80, les autorités sanitaires ont envisagé de recourir à une technique encore plus puissante que celle en usage alors pour détecter le virus du sida, mais aussi deux autres virus assez dangereux, le virus de l'hépatite C et le virus de l'hépatite B. Cette nouvelle technique était susceptible d'abaisser de moitié le risque résiduel. Mais ce risque résiduel était déjà très bas, de l'ordre de 3 à 5 contaminations annuelles. Et rappelons que l'on fait en gros 2 millions de transfusions par an. Alors, si la nouvelle technique le pouvait abaisser, mais au prix d'un coût beaucoup plus élevé, et les experts interrogés à deux reprises et de manière séparée, ont conclu pour les deux groupes consultés, après évaluation des rapports bénéfices-risques et coût-efficacité, on conclut à un rejet de l'application de la nouvelle technique, l'argument majeur étant celui du coût jugé prohibitif, qui aboutissait dans une étude économique très très soigneuse à établir que ça représentait un coût de plus de 300 millions d'euros par décès évité et près de 50 millions d'euros par année de vie gagnée. Malgré cet avis négatif, double avis, je souligne encore, les autorités sanitaires ont pris la décision en octobre 2000 de mettre en application la nouvelle technique en invoquant le principe de précaution. Et le recul dont on dispose maintenant a donné pleinement raison aux experts. En fait, le nombre de contaminations avant la mise en œuvre de la nouvelle technique était déjà très faible, j'ai dit de 3 à 5, même en moyenne 3 pour les 3 dernières années, de 96 à 99, n'a pu que baisser de moitié, mais on retrouve à partir de l'an 2000 une ou deux transmissions par an. On a ici l'exemple d'une dérive sécuritaire par remplacement de la prévention par la précaution. Les décideurs politiques ont à l'évidence été inspirés par la crainte de ne pas faire preuve à l'égard d'une opinion publique profondément marquée par le drame du sang contaminé, d'une prudence extrême en matière de risque viral. Mais si l'on replace ce risque viral dans le cadre des risques globaux de la transfusion, car il y en a bien d'autres, et des risques qui grèvent encore la transfusion, on mesure encore mieux le caractère déraisonnable, il faut le dire, de cette polarisation sur le risque viral. Elle a détourné l'attention et les ressources financières de deux autres risques transfusionnels beaucoup plus fréquents. D'une part, le risque de contamination bactériologique, on en compte une vingtaine par an, et surtout des accidents encore plus graves dus à des erreurs d'attribution. Il faut dire que la transfusion se passe souvent dans un climat d'urgence et qu'il survient parfois des erreurs de malades au moment de l'attribution. Et on en compte en moyenne de 20 à 25 ans par an, dont une proportion notable de décès. Eh bien, il est évident que c'est à la prévention de ces deux types d'accidents, accidents bactériologiques, accidents d'attribution, que l'on aurait dû consacrer les sommes dépensées, alors qu'elles aboutissaient à un bien faible gain en matière de risque viral. Oui. On constate donc par cet exemple que le principe de précaution, en se substituant indûment au processus de prévention, peut faire sauter les limites légitimes qu'implique une gestion équilibrée et juste des ressources budgétaires affectées à la santé. Cet aspect d'éthique collective n'est que trop rarement considéré lorsque, sous la pression médiatique, le principe de précaution vient cautionner les mesures d'un coût disproportionné avec les résultats attendus. Le deuxième exemple d'effet nocif se situe dans le domaine de la vaccination. Nous revenons à la citation initiale, mais aujourd'hui, il s'agit de la vaccination contre l'hépatite B. L'utilité de cette vaccination dans la protection d'une maladie qui entraîne un pourcentage considérable de complications graves, cirrhose et voire cancer du foie, était solidement établie depuis une quinzaine d'années lorsque cette mesure s'est trouvée ébranlée dans les années 90 par le signalement d'un certain nombre de complications nerveuses susceptibles d'avoir été provoquées par la vaccination. Et bien que cette relation avec la vaccination ait paru d'emblée très discutable, le ministère de la Santé, s'appuyant sur le principe de précaution, a suspendu en 1998 les campagnes scolaires de vaccination contre l'hépatite B qui étaient systématiques à l'entrée en collège. Et cette décision politique a été déplorée par la majorité des spécialistes français, encore beaucoup plus par les spécialistes étrangers et par l'OMS même. Et de fait, depuis, de nombreux travaux ont permis d'éliminer l'hypothèse d'une relation entre vaccination et complications neurologiques, et surtout dans la classe d'âge des nourrissons, âge auquel aucune complication n'avait jamais été signalée. Mais le mal était fait dans l'opinion publique, et la chute du taux de vaccination vient encore, il y a quelques mois, d'être confirmée. En effet, à l'âge de 2 ans, une enquête nationale montrait que seulement 24% des enfants étaient correctement protégés contre un minimum de 80% dans les pays étrangers. L'analyse a posteriori des raisons de la décision politique a bien mis en évidence le rôle décisif joué par l'introduction dans le raisonnement bénéfice-risque d'un risque non prouvé, celui de complications nerveuses, et qui s'est révélé ultérieurement non fondé. Ainsi a-t-on basculé d'une démarche de prévention dans une démarche de précaution dont on constate maintenant la gravité à long terme des conséquences, puisqu'elle laisse sans protection à l'égard de risques majeurs une large partie des classes d'âge concernées. Ces deux exemples malheureux conduisent à souhaiter qu'une obligation soit faite de faire une évaluation a posteriori des bénéfices, des inconvénients et des coûts des applications du principe de précaution, ce qui, jusqu'à présent, manque beaucoup. Et bien, dernier chapitre, c'est l'examen du principe de précaution dans la recherche médicale, qui est le troisième grand secteur médical. Le principe de précaution est, en matière de recherche, dans une situation bien paradoxale, puisqu'il paraît à la fois nécessaire et néfaste. Il est nécessaire car on ne peut nier que même précédé d'une expérimentation animale poussée, parfois mettant des années, rassurante, et le plus souvent, pour qu'on retienne la molécule, le passage de l'essai à la phase humaine de toute recherche comporte bien des incertitudes quant à son innocuité. Mais en même temps, l'application du principe de précaution qui serait utile, car on ne connaît pas exactement le risque, est en même temps néfaste en raison des risques possibles non compensés par des bénéfices, en particulier lorsque l'on recourt à des volontaires sains, l'application du principe de précaution, puisqu'il y a risque, devrait interdire l'expérimentation humaine. Et le meilleur exemple de cette situation est le médicament. Après la phase expérimentale animale, les essais sur l'homme comportent 4 phases, dont la première impérative exige la vérification de non-toxicité du produit sur des volontaires sains. Il est bien évident qu'il n'y a donc aucun bénéfice pour ces volontaires et que des risques éventuels. Et un récent et grave accident qui s'est produit il y a 2 mois à Londres a mis en péril 6 jeunes volontaires du fait d'un essai d'un médicament qui pourtant avait été parfaitement bien toléré sur l'animal. On voit bien par cet exemple que l'acceptation délibérée d'un certain niveau de risque est une condition absolue de l'innovation thérapeutique. Mais on pourrait rapprocher aussi de cette situation de la recherche la situation du don d'éléments humains, du don de sang, du don d'organes. Là aussi, il n'y a aucun bénéfice direct pour compenser l'éventualité de risques et l'application du principe de précaution pourrait entraîner l'arrêt de ce progrès majeur. Au total, la mise en application du principe de précaution ne pourrait conduire qu'à une régression des acquis médicaux et à une paralysie de l'innovation thérapeutique. On peut déplorer la sensibilité particulière de la société française à l'égard du risque qui a pesé dans ses orientations, mais force est de constater que, en effet, c'est ce qui nous a valu l'extension du principe de précaution et son passage du domaine de l'environnement à celui de la médecine, avec les inconvénients majeurs que l'on vient d'évoquer, qui, en bonne logique, devraient faire abandonner cet espoir, pour ne pas dire cette utopie. Encore faut-il, allant au-delà de cette attitude un petit peu négative, proposer une autre voie. Heureusement, il en est une. La perception de l'exigence sécuritaire a conduit, il y a une dizaine d'années, une réponse beaucoup plus raisonnable et plus logique. Et elle repose sur le principe d'une veille sanitaire permanente et conçue pour réagir avec rapidité à la constatation d'un effet nuisible non prévu. Cela s'est traduit, cette prise de conscience, par la mise sur pied d'un dispositif d'alerte et d'expertise simultanément extrêmement réactif, conformément à une loi, la loi de 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire. Cette loi a en effet été à l'origine de la création d'une structure spécialement adaptée, l'Institut national de veille sanitaire, complété et s'appuyant sur trois agences, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité des aliments et l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement. Ce dispositif coordonne les différentes vigilances spécialisées, pour n'en citer que trois, la pharmacovigilance, l'hémovigilance et la biovigilance.
Oui, d'accord.
Mais par ailleurs, elle s'appuie, et c'est là où on peut parler d'un dispositif très cohérent, elle s'appuie sur des échelons régionaux pour être au plus près de la constatation d'un accident, et elle est en liaison par ailleurs à un niveau extra-national avec des instances internationales qui sont mises en place parallèlement avec la même vocation. Et la preuve de l'efficacité de cet ensemble a été apportée par différentes mises à l'épreuve, en particulier l'épidémie du SRAS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, l'épidémie de la grippe aviaire commencée en 2004 et qui se prolonge encore, et celle du chikungunya, constatée en 2006. Cette nouvelle voie, qui a totalement intégré la nécessité d'une réponse rapide, mais fondée sur des faits identifiés et des pratiques épidémiologiques éprouvées, devrait permettre de refouler le principe de précaution à son domaine initial, celui de l'environnement, qui lui offre sans doute l'occasion d'une utilité qui est devenue extrêmement contestable dans le domaine médical. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre le professeur Georges David de l'Académie de médecine qui donnait lecture de sa communication devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 19 février 2007, communication consacrée à la prévention et au principe de précaution. Cette séance de l'Académie des sciences morales et politiques a eu lieu le lundi 19 février 2007 et vous pouvez consulter l'intégralité du texte sur le site de l'Académie asmp.fr.